Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Mise à mal.
Les cœurs brisés.
Les cœurs brisés.
On se met un battle
de cœurs brisés.
Ça, c'est intense ce qui se passe là.
Oui, vas-y Théo.
Pardon,
je t'ai dit vas-y Théo, dis pardon.
Excusez-moi. Mais alors ça, c'est pour ça que je me faisais marcher dessus dans mon autre relation. Ça m'énerve. C'est que je m'excuse tout le temps. Genre limite, tu... je t'ai trompé 8 fois avec ton père. Oh, excuse-moi ma chérie.
Salut Théo.
Salut Flo.
Et bienvenue aux Applaudiqueurs.
Bonjour à tous.
Aujourd'hui, on va parler des peines de cœur, le cœur qui fait bobo, le cœur qui fait ouille.
La maladie d'amour.
Les petites blessures émotionnelles ou les grosses blessures émotionnelles qu'on a eues dans notre vie. Et pour ça, on accueille Florent et Tom. Et Florent, je remarque qu'on t'a pas présenté dernier épisode parce qu'on s'est un peu enflammé, on est parti de but en blanc.
Non, mais moi, on m'a pas demandé, tu vois, qu'est-ce qui était surprenant chez moi.
C'est ça.
J'ai même pas dit mon âge, j'ai rien. Je crois que j'ai dit mon âge, je sais même pas.
Même pas. C'est vraiment, t'as ignoré.
On est parti direct, quoi.
Tu as 67 ans, en fait.
En fait, c'est ça.
Et du coup, Florent, est-ce que tu peux nous dire quelque chose qui peut être étonnant la première fois qu'on te rencontre?
Alors, ça dépend les milieux. J'y ai réfléchi. Ça dépend les milieux. Mais je pense c'est que je suis un énorme fan de foot. Mais vraiment, enfin, bon. On va dire que dans les milieux universitaires, quand j'arrive avec ma petite chemise ou mon petit truc tranquille, je pense ils peuvent pas savoir que je connais tous les gagnants de la Ligue des Champions depuis 25 ans, que je connais à peu près, enfin je pense que je connais tout le palmarès de la Coupe du Monde, et je peux te dire l'équipe de France actuelle, le parcours de chaque joueur qui a gagné la Coupe du Monde 2018 et même maintenant quoi.
C'est vrai que voilà. Objectivement, je m'attendais pas à ça de toi.
Bah voilà,
tu vois. Très bien.
Et c'est Florent qui m'a fait un peu aimer le foot en termes de stratégie, donc merci pour ça, mais vraiment pas au point où je m'y intéresse.
Non, quand même pas.
Regardez la Coupe du Monde et c'est tout.
C'est ça.
Et Tom, je viens juste que t'éteignes. Merci. Je viens que t'éteignes la soufflerie.
Et que tu étendes le linge. C'est ça.
Et Tom, je veux bien que tu te présentes et que tu dises quelque chose dont on ne s'attend pas de toi la première fois qu'on te rencontre.
Que j'aime beaucoup la danse et que je fais de la danse.
C'est vrai. Voilà.
Notamment, j'ai fait de la danse pendant 16 ans, 17 ans. Et là, c'est je fais des claquettes en ce moment. Voilà. Enfin, pas en ce moment.
On l'entend
moment.
Pas, ouais.
Et donc, si Tom boit plus de 3 verres, on peut le voir à l'œuvre. La dernière soirée chez toi, t'avais fait des claquettes.
Non, mais c'est vrai.
Zut. Enfin, oui, c'est vrai. Zut. J'ai fait de la danse pendant depuis de très longtemps, ouais.
Quel est le cliché qu'on essaie de mettre à mal sans transition, Florian?
Bah, le cliché qu'on essaie de mettre à mal, c'est que les hommes sont des sans-cœur et qu'ils traversent les ruptures, que ça leur glisse dessus comme ça, et qu'on a pas mal à notre petit cœur, qu'on s'en fout.
Exactement, et que l'effet Bridget Jones, c'est le propre des femmes, alors qu'en fait, peut-être que non.
Et aujourd'hui, on va essayer de parler de ça, on va parler des ruptures, mais on va aussi parler des pré-ruptures, des post-ruptures. On va essayer de parler voilà, des moments où ça nous a fait mal au cœur. On va pas se limiter qu'aux ruptures, même si c'est la question qu'on vous a posée sur Instagram. Et peut-être pour commencer cet épisode, on peut faire un petit tour d'anecdotes. J'essaie d'être discret en réglant mon micro en même temps, mais j'arrive pas à faire deux choses en même temps. On peut faire un petit tour d'anecdotes. Qui veut commencer?
Vas-y, je te laisse.
Qui veut parler du moment où il s'est fait laminer?
Je vais commencer.
Ok, Florent.
Alors je suis resté 3 ans avec une fille et c'est à peu près au milieu de notre relation. Donc ça faisait 1 an et demi qu'on était ensemble et on s'est séparés. Ok. On s'est séparés voilà parce que on était en études, que c'était un peu compliqué. Et 3 mois après, on se revoit, on se recroise. On habitait pas loin, donc on se recroise en sortant du RER. Des petits détails. Et on se reparle. Du coup, c'est là qu'on se rechatche un petit peu. Et à ce moment-là, en fait, on était un peu voilà, on était un peu. On avait fini un peu justement notre période un peu de stress qui avait un peu niqué notre couple. Et on se revoit et puis on se remet à se tchatcher et arrive le moment où l'ambiguïté revient assez rapidement. Et en fait, c'est vrai que cette première rupture, c'était un peu mal passé. dans les 3 mois avant. Et donc c'est vrai qu'on est, elle surtout était un peu à tâtons. Enfin un petit peu, voilà, elle était un peu méfiante. Et chose importante, elle me dit que elle chatche un petit peu avec un mec, mais que voilà, elle devait descendre dans le sud pour aller le voir. Et mais que ça s'était pas fait encore. Donc moi, je sais pas comment vous dire l'état d'esprit dans lequel j'étais, mais c'est vrai qu'on s'était séparés, on était un peu stressés tous les deux. Et là, je me suis dit, ouais, je suis prêt pour un nouveau départ et j'en ai vraiment envie, en fait. J'avais réglé certaines choses, etc. Et en fait, pour la faire un petit peu vite, on a couché ensemble. Et moi, je pensais que c'était un peu un ok. On reprend notamment nos valeurs, enfin, on reprend un truc, même si on n'y va pas tout de suite en mode couple, voilà. Et en fait, il s'avère que 4 jours après, elle descend du coup en vacances là où elle doit aller dans le sud et elle couche quand même avec ce mec. Et là où franchement ça a été vraiment compliqué, c'est que bah déjà j'ai vu les stories, tu vois, où je voyais le mec
le sexe
à côté
du mec.
Et après voilà, même encore un peu après, enfin du coup ça m'a laminé, genre limite en mode crise d'angoisse, tu vois, pendant toute la nuit. Je me levais à 6h30 du matin, même 5h du matin, donc du coup c'était chiant. Et du coup voilà, et, en fait j'ai fait un peu un déni de ça parce que finalement on s'est quand même remis ensemble un mois après, mais ça m'a repété à la gueule. Et depuis on s'est séparé du coup il y a 2 ans, donc c'est entre 2015 et 2018. Ça m'a repété à la gueule à notre dernière rupture, et j'ai mis je pense bien 2 ans, bah du coup jusqu'à il y a pas longtemps, à régler certaines choses et à me remettre voilà de ce truc là quoi.
Sur le moment, tu lui avais dit que ça te faisait mal qu'elle descende voir ce mec, ou alors quand elle est remontée de dire bah attends, moi j'ai, ça me fait du mal?
Bah justement en fait c'est là où je mets vraiment une distinction justement entre cœur brisé, rupture, blessure émotionnelle et chagrin. C'est que le chagrin, je pense qu'il passe, tu vois, enfin il passe, il est, c'est un côté voilà, ça dure 2-3 mois, c'est vraiment presque chimique, tu sais, sur le, vous savez peut-être que j'avais lu un truc comme quoi la rupture amoureuse c'était identique à un sevrage de drogue en fait.
Ah ouais.
Ouais, j'avais lu ça dans un article. Et du coup il y a le côté chimique, ça c'est du chagrin, mais la blessure c'est que je pense quand il y a eu justement un truc émotionnel plus fort, et quand tu parlais, est-ce qu'on se l'était dit? Moi, je pensais avoir été clair, tu vois, je pensais qu'elle avait bien compris que si elle faisait ça, ça allait me laminer et que ça allait vraiment niquer notre système de valeurs qu'on avait mis en place un peu, même assez explicitement pendant notre relation. Et du coup, en fait, c'est ça qui m'a un peu ruiné, c'est que au-delà du côté même, tu vois, tristesse de se sentir comparé, enfin, ce qui se passe, ce que j'ai écouté de façon assidue. Le podcast sur l'infidélité.
C'est bien.
Allez l'écouter, il est très bien. tu vois, il y avait ce truc-là de, je lui avais dit, en effet, et j'ai l'impression qu'elle a rompu un système de valeurs et que ça, c'est ce qui a fait le plus mal.
Est-ce que tu penses qu'elle l'a fait en connaissance de cause?
Bah, c'est encore un truc qui je pense, qui malheureusement a participé, c'est que ce mec-là, en fait, l'avait dragué ouvertement. C'était un loueur de bateau qui avait genre,
Ah bah ouais, t'avais aucune chance.
Non, mais genre, comme ça.
Non, mais le mec, c'était un petit, tu vois. En plus, c'était un petit, bien plus jeune que moi.
Petit bateau.
En plus.
Petit bateau.
Dire loueur de bateau, on dirait une expression pour dire briseur de couple, tu vois. Ce mec, c'était vraiment un loueur de bateau.
Non, mais je dis loueur de bateau parce qu'il avait vraiment dragué. Genre, on l'avait vu 2 fois et ouvertement devant moi, il l'avait dragué de ouf et ça m'avait foutu en run, tu vois. Mais j'étais avec sa famille et tout, donc je pouvais pas m'énerver, tu vois. Pourtant, je suis pas vénère, mais là, j'aurais pu m'énerver et aller lui foutre une tarte. Même si vous me connaissez, enfin, Flo et Théo, vous me connaissez, je suis vraiment pas méchant. Mais du coup, ce qui a participé à ça, c'est que bah, le mec l'avait dragué, elle l'a fait. Tu le dis, est-ce qu'elle l'a fait consciemment? Consciemment, si elle a pécho ce mec-là et s'il a fait avec ce mec-là, c'est qu'elle savait que j'étais vénère. Elle savait que ce mec-là, tu vois, il avait déjà, je l'avais un peu en tête quelque part.
Ouais.
Tu vois.
Est-ce que, vous en avez parlé, est-ce que ça l'a conscientisé, est-ce qu'elle a avoué ou elle a juste dit non, j'en avais envie, elle a fait le prétexte de genre, on se devait rien, du coup, j'ai fait ce que je voulais.
Écoute, ça, en fait, elle l'a avoué, évidemment, et c'est quelque part excusé, mais en fait, moi, j'étais tellement vénère et triste, et même jusqu'à maintenant, tu vois, ça reste un truc que je pardonnerai jamais, je pense, que ce sera jamais suffisant. Donc, en fait, certainement qu'elle l'a fait, mais elle m'a eu aussi des discours, notamment à la toute fin, justement, toute fin de notre relation, oui, mais tu sais, voilà, la vie c'est comme ça, parfois on se fait trahir, enfin, tu vois, il faut assumer, et puis voilà. Enfin, un peu en mode, et je la comprends aussi quelque part, qu'elle avait pas porté cette culpabilité jusqu'à la fin de sa vie, notamment aussi, parce que là je vous le raconte de mon point de vue, mais c'est vrai que ça faisait 3 mois qu'on était ensemble, vraiment c'est pas à la limite le fait qu'elle pécho un autre mec, c'était pas ça, mais c'est que on est couché ensemble, enfin on s'était recroisé, on a couché ensemble, et 4 jours après, elle couche avec cet autre mec là. Vous voyez, c'est vraiment ce moment là, c'est pas la rupture, le machin, c'est vraiment voilà.
Est-ce que tu peux nous, alors j'ai deux questions, mais la première, est-ce qu'on peut essayer de décrire les, enfin dans ton cas, qu'est-ce que t'as ressenti physiquement, enfin physiologiquement, la peine de cœur, comment elle, quelle sensation ça t'a procuré, parce que peut-être que c'est pas la même d'une personne à une autre. Comment tu, quand tu dis j'ai eu une peine de cœur, comment c'était toi, ou vraiment dans ta poitrine?
Déjà vraiment physiquement, j'ai littéralement, enfin je pense que ça s'assimile vraiment à une crise d'angoisse. C'est vraiment je suais dans mon lit, je pouvais pas dormir, j'avais le cœur qui battait à 2000 pendant, enfin vraiment entre minuit et 5 heures du matin, vraiment, enfin tu vois.
Et ça c'était,
il y avait ça
quand tu savais, pardon je t'interromps, mais quand tu savais qu'elle était en train de descendre dans le sud, ou après coup, après que ça ait
au moment où j'ai vu les snaps, tu vois, où j'ai compris que ce mec là était là ce soir là tu vois, ça c'était ça. Et sinon après c'est vraiment je te dirais en termes de confiance, ça a ruiné beaucoup de choses, vraiment, ça a vraiment ruiné beaucoup de choses. Et enfin confiance à la fois en soi-même et confiance un peu en elle, dans la relation, et puis même confiance de manière générale, tu vois, dans le love, dans le, enfin disons que je pensais vraiment qu'avec cette meuf, hein, il pouvait se passer plein de choses, mais qu'elle pouvait pas être aussi malveillante. Donc en fait c'est vraiment une surprise énorme, tu vois, surprise et puis une déception énorme. C'est un peu comme ça que je l'ai ressenti.
Et malgré ça, tu as continué de la voir et vous êtes remis ensemble pendant du coup 1 an et demi, c'est ça?
Ouais, deux choses. D'abord parce que j'ai clairement fait un déni, et que, comme je vous le dis, voilà, c'est que 3 mois avant, quand on s'était séparé une première fois, fallait que je règle des choses par rapport à d'autres relations. Enfin, voilà, il y avait tout ça. Et j'ai eu une espèce d'une sensation au moment où je l'ai revue que j'avais tout réglé le passé et que je pouvais repartir sur un nouveau truc. Donc, en fait, j'étais un peu prêt à tout, tu vois, en me disant vraiment, je me suis dit dans ma tête, je suis capable de rester très longtemps avec cette fille, donc j'ai mis ça sous le tapis, tu vois. Et c'est peut-être ça l'erreur que j'ai faite, et c'est ressorti vraiment quand on s'est séparé à la toute fin, 1 an et demi après encore.
C'est un exemple que je trouve très parlant, parce que pour moi, dans la peine de cœur, il y a 2 stades. Il y a la peine un peu vive de l'acte, de l'instant, de la rupture. Et derrière, que je trouve, moi, à mon sens, beaucoup plus pernicieux, il y a une douleur de fond, comme une lame de fond qui vient fréquemment dans ton quotidien te ravager un petit peu, mais quelque chose de, tu sais, t'es pas bien, il y a une sorte de malaise, mais c'est vraiment au fond de ton cœur, et t'as du mal à identifier que ça vient de là, mais c'est juste une sorte de contre-coup, quoi. C'est comme, tu sais, quand il y a eu un tsunami, derrière la première grosse vague, il y a plein de petites vagues qui brassent le fond, mais tu t'en rends pas forcément compte, quoi.
Ouais, et c'est exactement ça que je sépare entre chagrin, tu vois, et blessure émotionnelle, parce que j'ai vraiment fait cette distinction là dans le sens où dans ma précédente relation, qui était aussi nocive sur certains points, j'ai eu du chagrin, mais j'ai pas eu de blessure, si tu veux, tu vois. C'est à dire que là, dans cette relation, finalement j'ai eu le chagrin, mais j'ai eu cet événement, j'ai eu une blessure, c'est ce truc là et je suis assez d'accord avec toi. Et c'est, je pense que, enfin, faut pas peut-être à chaud, tu vois, se dire, enfin, quand t'as du chagrin, c'est difficile de faire la part des choses, mais c'est vrai que quand t'as ce sentiment-là, je pense que c'est le moment où il faut dire, ok, qu'est-ce que ça a touché, pourquoi est-ce que ça m'a autant blessé, parce que là, en l'occurrence, est-ce qu'il y avait de la compréhension, enfin, soit c'est de la compréhension, manque de communication, ou bien ça fait appel à des choses plus profondes. Enfin, dans mon cas, c'était ça. Et là, ça doit être réglé de manière un peu plus réfléchie. Que le chagrin, tu vois.
Il y avait aussi une composante qui était nouvelle pour toi, qui était ce fait de s'offrir quasiment totalement. Quand tu l'as recroisée, tu t'es vraiment offert à elle. Voilà, on est prêt à repartir. Voilà qui je suis. Voilà ce que je t'offre. Mmh. Et le fait que 3 jours après, elle nie ça en allant partager votre intimité avec quelqu'un d'autre. Enfin, pas votre intimité, mais toi, tu l'as appris un peu comme une intrusion dans votre intimité que vous avez partagé de faire l'amour 3 jours avant. C'est, je pense, là où est venue la blessure, enfin, de ce que tu m'avais dit. Je veux pas surinterpréter ce que tu racontes là, mais c'est vrai qu'on en a parlé pendant 2 ans après, quoi.
Ouais, complètement, complètement. Et surtout, tu vois, voilà, parce que je me suis offert à elle, et je pense que là, ça, c'est vraiment une question qui est un peu plus globale sur la responsabilité de la sécurité affective.
Wow. Le titre d'épisode, quoi.
J'avoue, mais qu'on dirait un article de la Sorbonne.
C'est une thèse, ouais. Tu es Bourdieu pour moi.
Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est que justement, elle, et est-ce que je peux généraliser aux meufs, mais enfin, ça sert à rien de généraliser,
mais j'ai envie.
Elle avec un S.
C'est une piste de réflexion, et on peut en discuter. C'est que là, justement, c'était elle qui avait tout entre les mains, justement, ma responsabilité affective, et elle l'a balayé, tu vois. Et quelque part, personne lui en a voulu en fait. Enfin, je sais pas comment dire ça, mais je pense qu'à l'inverse, si un mec avait fait ça, parce que je pense qu'on lui attribue ça, le fait qu'il doit assurer cette sécurité affective aux meufs, c'est leur rôle. Enfin, c'est leur rôle, on va dire, de la société. Mais peut-être que je me trompe, mais c'est ce que j'observe. Et ben, il va tout de suite passer pour un connard s'il fait de la merde. Alors que elle, à la limite, certes, oui, mes potes, mes machins, on dit oui, c'était pas bien ce qu'elle a fait, etc. Mais j'ai un sentiment que elle avait pas à se remettre en question par rapport à ça.
Un peu plus d'impunité parce que du coup, un homme doit normalement pas trop souffrir face à ce genre de choses, quoi. Enfin, selon le script.
Parce que peut-être en tant qu'homme, tu vois, tu dois assurer ta propre sécurité affective, alors qu'en tant que femme, enfin, pareil, c'est des réflexions et des questions. Est-ce qu'il n'y a pas ce truc de dire, les femmes mettent plus facilement leur sécurité affective entre les mains des hommes, ce qui pose aussi des problèmes certainement pour elles. Et du coup, c'est toujours l'homme qui porte un peu ça. Vous voyez ce que je veux dire?
Ouais. Mmh. Et ce que tu dis là, c'est pas tant pour le valider, mais c'est des observations que t'as faites, générales qui sont genrées dans la société.
C'est le côté chevalier servant, quoi. Il faut que tu protèges la meuf à tout prix et quitte à encaisser et à faire l'éponge.
Mais ce qui est marrant, c'est que tu l'as fait. Tu l'as fait, tu t'es remis avec elle après pendant un an et demi en mettant ça sous le tapis et ça t'est ressorti puissance 10 au moment de la rupture. Et je sais que t'as passé beaucoup de temps, toi, célibataire, après, pour essayer de faire le deuil, de comprendre ce qui s'était passé pour toi, d'essayer d'en revenir pour pas que ça se repasse.
Pour vraiment finir l'anecdote, justement, ce que tu parles de la fin de la relation, c'est que la toute fin de la relation, un mois après qu'on soit séparés, alors je sais pas si je suis très clair dans les temporalités, mais voilà, donc à la toute fin de notre relation, un mois après, c'est elle qui revient vers moi en mode j'ai encore des sentiments pour toi, et là je fréquentais une fille à ce moment-là, et en lui disant que moi je fréquentais une fille, elle m'avait un peu détruit, enfin tu vois, en disant ouais, mais comment ça se fait, tu fréquentes une fille, etc. Et en fait, à ce moment-là, tu vois, c'est là j'aurais pu vraiment faire le connard de je vais la rebaiser et je vais baiser l'autre. Enfin, en gros, j'aurais pu le faire. Et en fait, tu vois, c'est que finalement, la toute fin, bah, c'est encore moi qui ai porté, encore une fois, la sécurité affective. C'est encore moi qui ai dit non, c'est moi qui prends la responsabilité de ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire. Et enfin, en me remémorant ça, enfin, du coup, je me suis dit, mais en fait, elle aurait dû faire ça il y a un an et demi, quoi. Tu vois.
Et vas-y, Tom.
Mais du coup, elle était pas, comment dire, quand vous en avez reparlé un mois après, là, quand t'étais avec la fille, elle était étonnée, elle, en fait, parce que quand vous avez rompu, vous avez parlé ça, de ce chagrin, elle a pas compris que c'était grave ou que ça t'avait vraiment blessé, peut-être.
Bah, alors, je pense que elle, dans sa tête, elle a pas fait le lien entre les deux choses. Elle, à ce moment-là, c'était juste, je pense, du chagrin. Tu vois, c'était juste du chagrin. Mais là, je pouvais plus supporter son chagrin, quoi. Là, je pouvais vraiment plus supporter je voulais plus porter ça, quoi.
Et est-ce que tu penses que le fait que toi, tu n'aies pas agi comme elle l'a fait, c'est aussi parce que, du coup, tu avais vécu ce que tu pouvais potentiellement lui faire subir?
Je fais pas des choses aussi cruelles. Enfin, tu vois, c'est pas, ça m'apporte aucun plaisir de faire des choses cruelles. Et là, ça aurait été juste cruel. Surtout que je conscientisais que, tiens, je peux te la rendre, tu vois. Ouais. Ça aurait été juste de la vengeance pure.
T'as pas fait œil pour œil, quoi. Enfin,
non. Là, c'est pas ce que je voulais faire.
Mais surtout de ce que tu dis, c'est que c'était très conscient de sa part parce que tu l'as pas appris parce qu'elle te l'a dit, mais tu l'as appris en regardant des stories ou sur Snapchat où elle était à peu près sûre que t'allais tomber dessus et
c'est public.
Et que t'allais mal le prendre ou que des gens en commun peut-être allaient le voir aussi. Donc c'est assez mauvais de sa part, je trouve.
Bah alors.
Ou volontaire, vraiment volontaire peut-être.
Alors, si je peux faire un peu l'avocat du diable, oui, parce que du coup, j'accuse et puis je défends aussi mon bro. je pense qu'il y a le côté où elle voulait se protéger de moi à ce moment-là, parce que ça avait pas forcément été facile. Hein. Moi aussi, j'ai mes torts dans la relation avant. Et du coup, il y avait ce côté, elle se protège. À la limite, c'est louable. Tu vois, de se dire, moi, je m'en fous, je vis ma vie et puis je fais ce que je veux. Mais c'est là où il y a quand même ce pincement, je pense, où elle a conscientisé que ce mec-là, comme je vous ai dit, c'est pour ça que je voulais raconter l'anecdote parce que c'était un loueur de bateau et on avait loué un bateau, c'est qu'il y avait ce truc-là malsain. Et c'est ça, en fait, finalement, je pense, qui était compliqué, c'est qu'il y avait, moi, j'ai senti de la malveillance, en fait, dans ce truc-là. Et c'était, je pense, le plus compliqué à vivre.
Est-ce que tu penses, parce que là, quand tu le racontes comme ça, on dirait presque, enfin, si elle l'a fait volontairement, c'est qu'elle avait quelque part quelque chose à te reprocher. Est-ce que tu penses que cette action-là, elle peut être en partie motivée par une vengeance envers quelque chose que tu aurais pu faire par le passé ou, par exemple, avant la première rupture ou quelque chose comme ça?
Bah, alors là, c'est une bonne question. Je pense en effet que notre relation d'un an et demi n'était pas parfaite et peut-être aussi un peu de mon côté, plutôt justement sur le côté émotionnel, parce qu'on s'était mis ensemble 15 jours après ma dernière relation qui avait duré 2 ans et qui était assez compliquée, qu'on s'était déjà plus ou moins séparé une petite fois, mais parce que j'étais à l'étranger. Donc en fait, elle avait peut-être pris un peu cher sur l'abandon, parce que dans son histoire familiale, c'était quelque chose d'un peu, voilà. Donc peut-être que moi, j'ai peut-être promis des choses, enfin, où j'ai donné la sensation que je pouvais promettre des choses que je pouvais pas tenir, mais enfin, pas pour me justifier ou quoi, mais parce que j'avais pas encore suffisamment d'expérience, donc
t'y croyais en fait.
J'y croyais et tout, mais c'est vrai que peut-être que moi je lui ai donné beaucoup de chagrin. Est-ce que c'était une blessure? Je pense que elle aussi, elle le conscientisait peut-être pas autant, donc peut-être que j'ai débordé un peu sur la blessure, mais j'ai envie de te dire peut-être pas au point de comme ça de faire un événement si marquant. Tu vois, c'est ça le truc, c'est que tu sais, il y a un côté quand tu fais ce genre de choses, c'est un vrai coup de poignard quoi.
Moi, ça m'est déjà arrivé de paniquer face à une potentielle souffrance que je voyais venir, de faire un peu n'importe quoi pour me préserver, mais certainement pas d'aller le raconter ou de le mettre publiquement sur Insta.
Oui, voilà.
Pour donc, elle a eu une volonté, je pense, de préservation vis-à-vis d'elle, qui peut être bon saine, enfin, en tout cas, qui peut se justifier. Mais la deuxième partie d'aller t'attaquer.
Ça c'est mesquin, ouais.
Ouais, il y a quelque chose. Et en même temps, elle devait être dans un tel état de souffrance qu'elle est allée jusque là.
Tu vois, c'était pas non plus, c'était juste. Alors sur le snap, tu vois, c'était juste, elle était avec plusieurs personnes et je l'ai reconnue, tu vois.
Oui,
tu
mais
vois ce que je veux dire.
Comment elle te l'a dit, tu vois. Moi, elle te l'a dit que ça s'était passé.
Bah après, c'est moi qui lui ai posé la question le lendemain, tu vois.
Ah ok.
Et parce que bah, je vais passer une nuit horrible, quoi.
C'est évident que quand elle a posté le snap, elle savait que tu le verrais. En fait, c'est, moi, c'est ça qui me choque, quoi. C'est que la carte qui a pu être jouée à ce moment-là de « Ah, j'y ai pas pensé maintenant », non, en fait, t'y penses forcément.
Ah, c'est vrai, ouais, je pense.
Et juste ça, dans les ruptures, moi, c'est la raison pour laquelle moi, je coupe tout contact. C'est pas par violence de genre « Tu n'as jamais existé et je veux plus rien avoir à faire avec toi », mais c'est pour ce genre de réminiscence où tu sais jamais vraiment ce que l'autre va faire pour... attirer ton attention, et c'est une forme d'escalade un peu cruelle parfois, que je coupe tout contact pour pas qu'il y ait de throwback, quoi.
C'est vrai que ces petites piqûres de rappel, moi j'avais l'expérience avec une ex qui faisait beaucoup de stories où elle faisait du pole dance. Bon bah, quand t'es à un clic de sa story, bah tu le fais, ce clic, c'est pas un effort draconien. Je sais pas. Donc il y avait ça. Je voulais juste rebondir une dernière fois sur ton anecdote, plus sur le côté blessure émotionnelle. Tout à l'heure, tu parlais de, tu l'as très bien dit, la dépendance, non, la responsabilité affective.
La responsabilité de la sécurité affective.
C'est très très beau.
On sent que le mec a plus préparé que nous.
Et j'ai réfléchi là. Je me demandais, est-ce que, alors, du coup, ce que tu appelles plutôt le chagrin qui suit le pic de douleur, est-ce qu'il y avait une partie de cette douleur, enfin, t'avais forcément de la rancœur vis-à-vis de ta meuf, est-ce que t'avais une partie de la douleur qui était, enfin, de rancœur qui était dirigée vers toi-même parce que justement, tu avais baissé ta garde, tu t'étais rendu vulnérable et tu t'y étais brûlé les doigts, entre guillemets.
Oui. Bah, je pense que oui. Sur le moment, j'ai pu me dire ça. J'ai pu me dire que j'aurais pas dû baisser ma garde, etc. Après, est-ce qu'il faut le regretter, tu vois? Enfin, je veux pas non plus devenir complètement cynique. Je pense que maintenant, du coup, ça m'a aussi apporté de la maturité quelque part. Et on en a discuté avec Florian. Ça a permis de pointer vraiment des choses, comment je me représentais les relations, et quelque part, ça m'a aussi aidé. Enfin, on va dire que dans un coup de poignard, quand t'as une crise, tu sais d'en tirer les bonnes conséquences. Mais notamment une des choses, et c'est pour ça que je vous parlais de la responsabilité, la RSA, la RSA, on va l'appeler.
La RSA.
Non, mais parce que justement, en fait, je pense que si je me suis un peu laissé faire aussi, c'est parce que justement, j'avais l'intuition, parce que peut-être qu'elle avait été plus triste que moi 3 mois avant, que je m'étais dit, tu vois, parce que j'avais peut-être été trop gentil aussi, tu vois, de me dire, ah bah c'est un peu de ma faute, c'est vrai que j'aurais peut-être dû lui apporter plus ceci, plus cela. Quelque part, peut-être que je me disais que je peux le mériter, tu vois, et c'est ça le truc. C'est qu'en fait, peut-être que je me disais, en fait, la zone grise, mais est-ce que je la mériterais pas? Alors que objectivement, je pense pas. Enfin, tu vois, c'est pour ça que je parle de ça, parce que quelque part, moi, c'est un truc qui pense a été structurant depuis 10 ans que je suis dans le game.
Depuis 10 ans que je suis plus puceau.
Bah que justement, ça a toujours été en fait un principe de ça, de me dire c'est moi qui dois prendre ça sur moi quelque part. Tu vois, c'est moi qui doit être bien. C'est elle doit se sentir bien avec moi et moi je peux encaisser. Tu vois. Et je dois encaisser même.
Je comprends tout à fait. Moi, enfin, je me reconnais beaucoup dans ce que tu décris là. Et merci d'avoir pointé le fait que c'était peut-être lié aussi à un biais de la société, ce côté un peu on doit protéger les femmes, parce que je l'avais jamais vu sous cet angle. Mais j'ai été pendant longtemps en relation, pendant 5 ans et demi. Et vu que c'était ma première relation, elle, bon, elle allait pas toujours bien, mais enfin, pareil. similaire à ce que tu décris, des problèmes d'études, d'orientation, de je sais pas trop ce que je veux faire, un peu de dépression, tu vois, mais comme tout le monde qui se lance dans la vie active et qui a des doutes. Et moi, j'étais dans une posture où je me disais, en fait, cette meuf, je l'aime tellement que je peux tout encaisser pour elle, et que si elle se décharge sur moi et que ça lui fait du bien, et bah c'est mon travail de faire l'éponge et d'absorber un maximum d'émotions négatives qu'elle peut avoir pour moi, parce que j'avais l'impression, enfin, et puis à juste titre, moi je suis une personnalité assez posée et rationnelle, je relativise plutôt pas mal, donc j'avais une plus grande capacité d'absorption de négativité, on va dire.
Si je peux rebondir justement par rapport à ça, est-ce que ça, du coup, tu mettais un peu sous le tapis certains griefs que t'avais? Est-ce que t'avais, tu, par exemple, t'acceptais des choses, mais même sur le moment, tu disais bon, c'est mon rôle de le faire, mais je sais que je suis pas ok avec ça, et peut-être que à force d'accumuler, ça t'a un peu plombé.
Ah ouais, c'était pire que ça. Enfin, c'était même pas que je les mettais sous le tapis, c'était quasiment du déni en fait. C'est que il m'a fallu 5 ans et demi et une rupture pour me rendre compte, et pas sur le moment, hein, pour me rendre compte, mais tu vois, 2 ans plus tard, enfin, même encore aujourd'hui, je réalise de ce que j'ai vécu, et je me suis rendu compte beaucoup plus tard de tous les petits trucs que j'avais acceptés et qui sont en fait inacceptables, des choses qui paraissent anodines dans une vie de couple, parce qu'elles se répètent, parce que, en fait, il y a une certaine fréquence qui fait que ça devient une banalité, une routine, et des petits trucs, mais tout bête, de manque de tact de sa part ou et des choses en fait que, comme tu le disais tout à l'heure, moi j'ai aussi appris et je le tolérerai plus. Je serais prêt à donner de ma personne, mais pas autant. Et d'ailleurs, c'est un autre sujet, parce que dans ma nouvelle relation, j'ai tendance à pas trop baisser ma garde à cause de ça aussi, parce que j'en ai fait les frais. Donc comme quoi, c'est pas genre on fait une fois une erreur et après c'est parfait. C'est genre on a besoin d'affiner au fur et à mesure. Mais il y a beaucoup de choses que j'ai mis sous le tapis, effectivement. Et j'ai beaucoup souffert de ça, mais a posteriori. Je pense qu'il y avait un mal-être sur le moment, mais qui était beaucoup plus profond, parce qu'en fait, vu que j'étais dans le déni, je ressentais des trucs, j'étais pas bien, d'un point de vue de ego, confiance en moi, tout ça. Enfin, je me suis effrité, mais c'était tellement un processus très très lent, tu vois. C'est comme quand, l'eau qui arrive à creuser une caverne dans la terre, c'est goutte par goutte, ça fait des dégâts hallucinants, vu que ça creuse la roche, mais en fait, on s'en rend pas compte au fur et à mesure. Et c'était exactement ça. C'est que, dans mes 5 ans et demi de relation, en fait, à n'importe quel moment où tu me demandais comment ça allait, j'ai dit, bah, ça va, il y a des hauts et des bas, mais ça va. Mmh. Alors qu'en fait, avec le recul, je dirais, mais non, ça n'allait pas, pour plein de raisons qui sont aussi les miennes d'ailleurs. Mais ça n'allait pas. Sauf que sur le moment, j'étais tellement amoureux et tellement dans ce rôle d'éponge que je prenais cher, mais sans m'en rendre compte.
Mais c'est marrant parce que tu dis ne pas baisser ma garde, comme si t'avais un contrôle à garder aujourd'hui pour ne pas te faire atteindre. Je pense que c'est pas tant de contrôler le fait de pas baisser sa garde, mais c'est de faire attention de pas tomber dans la codépendance. Et c'était un peu la dynamique que tu décris, dans le sens de « Ah, elle a une faiblesse que je vais combler, et moi j'en ai qu'elle va réussir à combler. » Par exemple, je sais pas, une inquiétude par rapport à, je sais pas, toi, ce qui te manquait, mais émotionnel ou d'affection. Bon, bah, cette meuf-là, elle comble ça, et elle a peur pour tel ou tel truc, du coup, il faut que je sois irréprochable pour l'aider, et en fait, ça te fait un truc de dépendance réciproque qui est forcément pas une bonne dynamique, parce qu'il y a que 2 options. Soit t'arrives à combler ce qui manque à l'autre, et du coup, elle a plus besoin de toi, et elle s'en va. Soit tu n'y arrives pas, elle t'en veut, et elle s'en va. Donc, enfin, moi, de ce que j'ai constaté, ces rapports de codépendance, il n'y en a rien de bon qui sort. Il vaut mieux capitaliser sur ce qui te fait vibrer chez l'autre et de se dire « j'ai envie de kiffer pour telle et telle raison qui me plaît », plutôt de se dire « je vais la sauver et elle va avoir besoin de moi parce que je vois qu'il y a un manque ». Et là, forcément, tu sais que ça va mal se finir.
Ouais, c'est sûr. Mais ça demande... Moi, c'était ma première relation, donc j'étais à 10 000 lieues d'avoir ce raisonnement-là.
Aucun, je dis pas à bout, t'as mal fait, mais moi, j'ai énormément... Toi, tu l'as vécu une fois, moi, j'ai dû le vivre 3 ou 4 fois avant de me rendre compte que j'avais toujours ce complexe du sauveur et que je prenais ma place là où il y avait du manque, plutôt que de prendre ma place dans mon individualité, dans ce que j'avais le plus beau à offrir, de manière positive, quoi.
Ouais, si je peux rebondir aussi sur un truc qui est très léger, mais qui est, je pense, à son importance, c'est le quand on te demande ça va. Enfin, tu sais, tu dis ça va. Alors évidemment, ça c'est le truc basique. On dit ça va à tout le monde, même dans d'autres situations. Enfin, tu vois, on va pas raconter notre vie à toutes les personnes, et c'est plus simple de dire ça va. C'est sûr. Mais je pense que pour les mecs, et encore une fois, encore une question que je lance. Dites-moi ce que vous en pensez. c'est que justement les mecs n'ont pas beaucoup d'exutoires pour que ce soit dans les blessures, dans les chagrins, même dans leur cercle social entre mecs, pour parler de ce genre de choses. Parce que dans la plupart des cercles sociaux masculins, quand tu vas commencer à dire que t'es triste parce que ta meuf elle t'a fait des détails, enfin des détails mais qui s'accumulent et qui sont chiants, bah il y a 2 chances sur 3 que tu te retrouves dans un mauvais cercle social et qu'on te balance, ouais, t'es un fragile. Et juste pour du coup compléter, c'est que les meufs, j'ai l'impression, et tant mieux pour elles, elles ont plus d'exutoires, c'est-à-dire qu'on leur, elles se parlent plus entre elles, tu vois des trucs, et c'est plus simple.
C'est très juste, et je pense même que c'est plus généraliste que ça, c'est que dans bien des cas, les émotions sont le propre de la femme et pas de l'homme. Les émotions, si tu mets de côté la colère, par exemple, les émotions un petit peu brutes et fortes, comme la colère, ce genre de choses, les émotions qui sont plus liées justement à l'affect, au sentiment, mais que ce soit, ça peut être positif, hein, le fait d'être amoureux, de ce genre de choses, c'est pas des, dans le domaine public, c'est pas des émotions qu'on attribue aux hommes, parce qu'il y a de l'éducation derrière et tout, mais comme tu le dis, c'est difficile de trouver des cercles d'écoute bienveillantes comme ça, et c'est pour ça qu'on a créé ce podcast à la base, quoi. C'est...
Moi, j'avais une question pour toi, Théo. Tes amis, quand ils voyaient ces détails avec ta relation, est-ce qu'ils t'en parlaient directement ou est-ce qu'au contraire, ils disaient rien en se demandant, en se disant que toi, tu gérais tout seul et que justement, c'était à toi de prendre ça sur toi ?
Alors, c'est une bonne question. Je pense que déjà, dans toutes les relations, il y a ce que tu présentes en société et la réalité. Vraiment, oui. C'était la surface un peu immergée de l'iceberg. C'est-à-dire que si moi, dans mon quotidien avec elle, j'avais du mal à me rendre compte de ce que je subissais, c'est sûr que vu de l'extérieur, ça se voyait pas. C'est après coup que j'ai pu réunir toutes les petites pièces du puzzle qui me faisaient dire « Ah ouais, en fait, quand tu les mets toutes bout à bout, il y a un problème. » Quand tu vois un truc par un truc, tu as le bénéfice du doute, en fait, et tu dis « Ouais, bon, ça, c'est sûrement une coïncidence, en fait. » Et donc c'était un peu ça qu'il y a eu, c'est que tout le temps de ma rupture, les gens me le disaient pas trop, quoi.
Okay. Et toi, Tom, du coup, est-ce que tu veux partager ton histoire ?
Oui, toute mon histoire.
Oui, du début.
Je suis né.
Il était une fois. Oui, alors moi j'ai une anecdote sur une rupture émotionnelle qui datait de ma copine du lycée, donc où on s'était mis ensemble au lycée, on s'était séparés quelques fois. Après, j'étais monté sur Paris, mon lycée n'était pas à Paris. Et du coup, donc, je savais plus trop où c'en était avec elle, je savais qu'on n'était plus vraiment ensemble, et j'avais encore des sentiments pour elle, et donc, j'étais descendu, donc, dans le sud pour la voir, on avait discuté, on parlait un peu de plein de choses, et moi, j'étais un peu stressé à l'idée de lui demander justement notre relation, où ça en était, et je pensais vraiment qu'on était sur la même longueur d'onde, ou qu'il y avait quelque chose aussi. Donc, après de nombreuses minutes de stress, je me lance, je lui dis, voilà, je voulais savoir où est-ce qu'on en était tous les deux, et sa réponse, ça m'a beaucoup choqué, parce que c'était pas du genre non, on en est nulle part, ou j'ai besoin de temps, ou quoi. Elle était vraiment étonnée que je lui pose cette question. C'est-à-dire, pour elle était vraiment passée à autre chose, et il y avait plus rien du tout entre nous. Et ça m'a tellement choqué quand elle fait quoi entre nous, c'est-à-dire ça m'a tellement choqué que genre ça m'a vraiment fait un énorme coup. Ça m'a vraiment fait une blessure, je pense, émotionnelle aussi, même si sur le coup je pensais que c'était du chagrin. Après, j'ai eu du mal à m'en remettre de ça, en fait, et je me suis aperçu à ce moment-là que mais que je l'avais beaucoup blessée aussi. C'est pas elle, même si c'est elle qui m'a blessée à ce moment-là. Ça, c'est vraiment plus moi, on va dire, qui lui avait fait du mal ou qui avait mis de la distance parce que j'étais parti étudier sur Paris et que je la contactais moins ou ce genre de truc. Je communiquais moins avec elle et j'avais mis un peu de distance au fur et à mesure. C'est vraiment à ce moment-là où je me suis aperçu à quel point je l'avais blessée et à quel point on était totalement sur une longueur d'onde différente. Et j'ai vraiment mis du temps à m'en remettre de ça. C'est-à-dire qu'à pendant un an ou deux, je pense, à chaque fois que je quittais le sud pour retourner sur Paris, dans le train, à chaque fois je pleurais dans le TER pendant un an ou deux. À chaque fois, ça me faisait pleurer, ça me faisait un coup émotionnel en me disant, je sais pas pourquoi je repensais à elle précisément à ce moment-là, parce qu'après j'avais plus de contact particulier, ou alors c'était vraiment très cordial, ou j'avais plus de sentiments pour elle non plus. Mais à chaque fois, je me disais, putain, c'est vraiment le... Comment dire, j'ai été blessé en fait par elle, j'ai vraiment une blessure émotionnelle, mais c'est à cause de moi en partie. Et du coup, j'ai vraiment fait du mal à cette personne. Et dans mes autres relations, il faut plus que je fasse du mal, parce que là, je souffre actuellement parce que on a à cause de moi, en fait, on s'est vraiment éloigné. Je m'en suis pas aperçu. Ça m'a vraiment déchiré, quoi.
Ce qui t'a fait du mal, c'est qu'elle te nie ou qu'elle nie votre relation. Qu'est-ce qui a, enfin, qu'est-ce qui t'a blessé au moment où elle a été étonnée de se dire, bah quoi entre nous?
Bah c'est que je pensais moi qu'il y avait une trace ou qu'il y avait encore quelque chose qui était possible peut-être ou que même il restait des traces de notre histoire ou que quelque chose était vraiment possible. Et elle, de son point de vue, pas du tout quoi. Genre c'était fini, c'était enterré. Et comme du coup je descendais pas régulièrement non plus, donc moi je pense que j'ai dû me faire 1-3 mois peut-être on va dire d'illusion avant que je la revoie, où il y avait peut-être une possibilité ou encore quelque chose, des sentiments qui restaient pour elle. Et alors qu'elle vraiment elle avait arrêté quoi. C'est ça qui m'a rendu triste, c'est de me dire ah ouais vraiment je suis complètement à côté de la plaque. Je m'attendais pas du tout à cette réponse là quoi.
Et vous êtes restés combien de temps ensemble avant ça?
On est restés au lycée à peu près 2 ans ensemble, okay. Avec des petites intermittences.
2 ans au lycée, ça vaut 15 ans dans la vie.
Oui, tout à fait,
vie,
tout à fait.
C'est vrai que c'est le premier amour, comme toi Théo, c'était ta première meuf, t'as un truc où c'est décuplé.
Oui, c'est ça, c'est décuplé.
Et j'entends beaucoup ce côté... toi, ce qui t'a fait mal, c'est le différentiel entre l'espoir que tu avais de colmater les failles de ta relation et son point de vue à elle, qui était arrêté, net et précis, c'était fini.
Oui, c'est ça. C'est qu'elle, elle était très sûre d'elle, alors que moi, j'étais plus dans un flou sentimental, alors qu'elle, pas du tout, quoi.
Ouais, moi, je me revois quand je me suis fait larguer. Mais vraiment, en plus, c'était la première fois que tu te fais larguer. J'étais vraiment... vulnérable quoi, je connais pas les codes et j'ai dit mais comment ça, tu penses pas qu'il faut juste en parler et essayer de voir comment on va faire? Elle a dit non, je changerai pas d'avis quoi. Et genre c'était tellement tellement dur, et je pense que ça m'a fait plus de mal que la rupture. C'est qu'en fait limite, même si au fond de toi t'es convaincu que ça marchera pas sur le long terme, t'as peut-être besoin de ce petit sas de doute et de décompression entre guillemets pour préparer un petit peu ton deuil quoi, parce que sinon c'est tellement violent, il y en a un qui reste en haut de la falaise et l'autre qui est précipité dans le vide.
Oui, tout à fait, c'est ça, c'est vraiment la dureté d'un coup de ces sentiments qui est horrible quoi, plus que la rupture ou le doute, que je savais non plus que ça allait pas s'étendre sur des années ou que c'était un peu fini avec cette fille là, mais c'est vraiment d'un coup c'était brut quoi.
Et en même temps, dans l'autre sens, faire souffrir quelqu'un un peu plus longtemps, oui, juste pour lui préparer le coup, c'est
ce que
cool.
J'allais dire. Genre, c'est pas parce que c'est graduel que ça fait pas. Il y a même des fois des relations où tu souffres encore plus parce que t'as un espoir et qu'en fait, tu te rends compte que l'autre se moque de toi, entre guillemets, enfin, que tu te rends compte par toi-même qu'au bout d'un moment, vous voulez pas la même chose, voire tu te rends compte en acte parce qu'elle commence à avoir quelqu'un d'autre ou et que toi t'avais un petit espoir. Enfin, je pense que ça peut être encore plus rude. Moi, je préférerais quelqu'un qui dit stop net.
Moi, je pense que ce qui m'a blessé dans ce cas-là, en fait, c'est pas tellement le fait qu'on se donne pas le temps, c'est vraiment que elle, de son point de vue, elle voulait même pas faire l'effort d'essayer de préserver ce qui était quand même une relation de 5 ans et demi, ce qui est assez long, et se dire mais elle est prête en un claquement de doigts à dire vas-y, bah les 5 dernières années on les enlève, on s'en fout, on repart à zéro. Et moi j'étais en mode mais c'est beau ce qu'on a et on aurait pu essayer au moins. En fait moi c'est ça, c'est juste l'essai qui me manquait, c'était de se dire au moins on dire ok, il y a des problèmes, viens on essaye, et si ça marche pas on aura essayé. Et ce manque, moi c'est ce qui m'a empêché de faire mon deuil plus rapidement, je pense, c'est le manque d'avoir essayé. J'ai pas eu de constat d'échec de mon côté, mais seulement le sien en fait.
Est-ce que pendant les 2-3 mois où t'as ruminé, du coup vous êtes, enfin tu t'es éloigné 2-3 mois, est-ce que tu gardais ça pour toi ou t'avais quand même des potes à qui tu pouvais en parler aussi, enfin où tu pouvais tout simplement en parler, tu vois, assez régulièrement?
Non, j'en ai pas trop parlé avec des potes.
Volontairement?
Oui, volontairement, oui. Je pense que j'avais pris sur moi aussi. Pas spécialement parce que je me disais c'est mon rôle de mec ou quoi, ou d'homme, de prendre sur moi, mais juste parce que j'avais pris sur moi, parce que je pensais que c'était facile à faire ou que ça allait aller. Ou j'avais demandé des conseils à une fille de ma classe, à qui je m'entendais bien, il n'y a rien de derrière, de quand la relation commençait un peu à aller moins bien. Mais à part ça, je me suis pas épanché auprès de quelqu'un, même mes amis proches, j'avais des amis proches, filles et garçons, j'en ai pas spécialement parlé.
Bah, enfin, je sais pas, après, peut-être que vous en avez aussi des anecdotes là-dessus, mais ça, c'est une observation, justement, que j'ai faite assez récemment.
Est-ce qu'elle a un nom? Aussi bien léché que l'autre, est-ce qu'elle a un nom sociologique?
Non, c'est juste l'exutoire.
Ah, ok.
C'est ça.
C'est pas mal.
Non, mais en fait, c'est que j'ai cette intuition, parce que en parlant avec mes amis filles aussi, est venue cette idée. Alors, c'est peut-être un cliché, mais voilà, sur le fait que le schéma, c'est plutôt les meufs sont très tristes et les mecs reviennent après. Tu vois. Je me dis, ok, ça c'est un peu un cliché généraliste, mais on peut y réfléchir. Et en fait, j'ai l'impression que les meufs, justement, vu qu'elles ont leur exutoire et qu'on leur autorise, tu vois, à pleurer, à gueuler, à être en colère juste après. J'ai une petite anecdote, justement, avec une de mes potes qui carrément a quitté son boulot en plein milieu d'après-midi, parce qu'elle avait c'était venait de se faire larguer, tu vois, sur un mec qu'elle connaissait depuis 2-3 mois. Et en fait, bah, je me rends compte que un mois après, elle a réussi à repartir sur une relation tranquille. Enfin, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a, enfin, comment dire ça. Évidemment que les meufs ont aussi des blessures émotionnelles, mais quand elles ont leur chagrin, tu vois, elles ruminent moins quelque part parce qu'elles sont peut-être un peu plus autorisées. Mais même, je parle même entre filles, tu vois, ça se parle plus, etc. C'est pour ça que je pose la question aussi entre mecs. Est-ce qu'on a des gens, tu vois, à qui on peut en parler aussi deeply, profondément? Parce que je pense que ça, c'est un truc assez structurel des mecs qui ont déjà font le pas d'en parler et ont une écoute derrière.
Oui, je suis assez d'accord avec toi. Je pense que comme on socialement on leur autorise du chagrin, ça peut passer plus vite ou elle passe mieux à autre chose. Et que moi justement, comme j'ai gardé après cette blessure pendant des années, ça paraissait ridicule d'en parler à quelqu'un alors que c'était ma copine du lycée et que j'étais même plus amoureux d'elle. Mais c'était dur de parler de ce chagrin-là parce que j'avais personne vraiment à qui en parler. Et c'était peut-être pas assez compréhensible même. Alors qu'une fille, voilà, comme elle peut vraiment plus s'épancher rapidement ou d'un coup au début, c'est peut-être plus facile pour elle de passer à autre chose.
C'est une observation intéressante. Mmh. Pour nuancer, parce que j'ai pas vraiment de réponse à cette question, c'est est-ce que les filles se remettent plus rapidement en selle, entre guillemets, parce que elles ont cette capacité d'exprimer leur chagrin, ou est-ce que en fait c'est parce qu'elles se remettent plus rapidement en selle que ça donne quelque part l'illusion, parce qu'en fait elles ont été un peu habituées à avoir ces protecteurs autour d'eux que sont les hommes, et du coup par réflexe elles se remettent peut-être un peu plus rapidement en relation, et en fait on sait pas à quel point ça se trouve elles subissent exactement les mêmes peines, mais elles prennent plus sur elles parce qu'elles sont à nouveau en couple.
Que ça reporte dans la relation d'après des trucs. C'est ça. Pas moi, digérés.
C'est j'ai effectivement, comme tu le dis, Florent, observé beaucoup de cas autour de moi de meufs qui se remettent, enfin qui souffrent beaucoup d'une relation, mais qui finalement se remettent assez rapidement dans une autre relation. Mais c'est pas pour autant, à mon avis, que c'est que tout est digéré et sain, quoi.
Alors, moi, c'est mon cas, par exemple. Je peux avoir souffert d'une relation et me remettre facilement avec une autre personne ou passer à autre chose ou coucher avec d'autres personnes. C'est-à-dire avoir une façade où je me remets de la personne, mais en fait, intérieurement, j'ai plus de mal. Je m'aperçois que ça peut prendre des semaines, des mois ou des années parfois, quoi.
Ouais, c'est les rebounds guys ou girls, quoi, que tu vois juste pour te guérir. Moi maintenant je me pose la question, pour quelle raison j'ai envie d'aller voir cette fille ou coucher avec elle? Est-ce que c'est pour éviter quelque chose ou est-ce que c'est parce que j'ai envie de construire quelque chose? Et si c'est par évitement, maintenant j'essaie de trouver un autre moyen parce que ça implique d'autres gens que moi. Mais pendant longtemps j'ai essayé de me réconforter dans les bras de quelqu'un d'autre après une relation, quoi.
Mais du coup maintenant, vu que c'était cet événement il s'est passé il y a quoi, il y a 7-8 ans plus?
C'était en 2013, donc ouais, 7-8 ans, oui, tout à fait.
Du coup, c'est...
Des mentalistes.
par quel... maintenant, est-ce que tu penses que t'as réglé ça? Enfin, t'as fait ton deuil? Ou comment est-ce que t'as fait pour... est-ce que t'es passé outre? Et si oui, comment t'as fait?
J'ai réussi à passer outre, je pense, avec le temps. J'ai fini par... comment dire, moins souffrir évidemment, mais j'ai appris quelque chose, on va dire, de cette relation, c'est que comme c'était moi qui l'avais fait souffrir, on va dire, en fait je la faisais souffrir parce qu'à chaque fois que j'étais en couple avec elle, ou même avec d'autres personnes dans cette période-là, je me reposais la question de est-ce que je l'aime vraiment, est-ce que ça vaut le coup, et du coup à partager mes doutes avec elle, à chaque fois je faisais souffrir les personnes avec qui j'étais dans cette période-là. Donc de cette rupture j'ai appris en disant, je me suis... comment dire, forgé en disant ok, donc maintenant quand t'es dans une relation amoureuse faut plus que t'aies de doutes, ou t'as pas à avoir de doutes comme ça, quoi. Si la personne tu l'aimes, te pose pas la question de est-ce que tu l'aimes plus ou moins, tu l'aimes, faut pas que tu remettes ça en question et que tu partages ces doutes avec elle, parce que ça va la faire souffrir, voilà, d'attendre plus longtemps avant de pouvoir émettre des doutes par exemple.
Moi j'ai une théorie à ce propos, je pense que les grosses peines de cœur, on n'en guérit pas, mais en fait c'est plus un processus qui va nous accompagner peut-être tout au long de notre vie, et ce processus c'est passer de la tristesse à la mélancolie. La tristesse étant une émotion très négative, là où la mélancolie peut être très positive aussi. puisque c'est la nostalgie d'un souvenir qu'on a perdu mais qu'on revit avec plaisir par réminiscence. Et les grosses peines de cœur, donc je pense à toi Tom sur d'autres relations que t'as pu vivre qui étaient plus longues, ou toi-même Florent sur ta relation qui a duré 3 ans. C'est des choses. Il y aura toujours des moments dans notre vie où on va repenser à ces personnes-là, parce que on ira à un endroit où on est déjà allé avec elles, où on pensera à un plat qu'elle aimait, j'en sais rien. Et dans ces moments-là, on aura toujours un petit pincement au cœur, mais tout le travail qu'on doit faire dans notre vie, c'est de faire en sorte que ce pincement au cœur, plutôt que d'être un pincement qui fait mal, ce soit un pincement qui fasse du bien, parce qu'on se rappelle d'une époque qui révolue, mais qui révolue aussi pour les bonnes raisons et qui nous a fait parcourir pas mal de chemin. Mais vraiment passer de la tristesse à la mélancolie, je pense que c'est la meilleure solution. Moi, au début, j'étais persuadé que cette blessure, je devais en guérir et être complètement en fait, si on continue la métaphore de la blessure, une blessure, c'est jamais 100% soignée. Si on te poignarde, tu souffres plus de ta blessure, mais t'as une cicatrice. Et c'est un peu ça. Pour moi, la mélancolie, c'est la cicatrice du cœur. C'est, tu vas réussir à transformer quelque chose de très négatif en quelque chose qui sera un souvenir, pas douloureux, mais mélancolique. Et c'est un travail, moi, en voyant ma blessure sous cet angle-là, ça m'a vachement aidé, parce que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, j'essaye pas de revenir à un état d'avant la souffrance. J'essaye de venir à un état d'après la souffrance, où la souffrance s'est convertie en une chose plus douce et plus positive.
C'est très beau, et j'aime bien cette vision romantique. Et moi, j'essaye d'aller plus loin, mais pour moi, je dis pas que ton truc est incomplet, je dis que moi, j'ai besoin d'une étape supplémentaire, que j'essaie de faire passer la mélancolie à de la gratitude, de me dire qu'en fait, je suis heureux que ces moments aient existé, et quelque part, ils sont pas perdus, puisqu'ils sont en moi. Et tu vois, quand je vais cuisiner, je vais repenser à une certaine fille avec qui j'ai énormément fait la cuisine, etc. Et je suis trop heureux d'avoir ces souvenirs-là. Et la dernière fois, j'écrivais, parce que je suis un artiste maudit, et j'ai écrit « Les souvenirs qu'on a ensemble sont autant de deuils dont je suis reconnaissant ».
Oh, c'est très beau.
Bah
c'est
oui,
beau.
Mais parce que disponible chez Flammarion.
Juste ça.
Juste ça. Flammarion.
Ça finit sur Instagram, ça.
Ça finit.
Ah oui, faut que je fasse une quote.
On devrait sortir une maison d'édition, ce serait Flammarion, et ce serait que des livres, on a un peu la flemme de les écrire en entier.
Du coup, il y a une phrase, en fait.
Ouais, c'est ça.
Les souvenirs qu'on a ensemble sont autant de... Voilà, Flammarion, si j'ai pas fini ma phrase, j'ai de la flemme. Je trouve que c'est un bon moyen de continuer à faire habiter ces relations en soi, d'y repenser avec reconnaissance.
Mais j'y vois pas une étape en plus, parce que pour moi, la gratitude, c'est le propre de la mélancolie, en fait. Tu vois, c'est le côté, je suis content d'avoir vécu ça, et j'y repense avec plaisir parce que je l'ai vécu, quoi.
Eh ben, on dit la même chose alors.
Eh ben, on est d'accord.
Super. Bien, on se marie.
On fait un podcast.
Allez, ça s'appellera comment? Ouais, non.
Flammarion.
Oui, Florent, tu voulais dire quelque chose?
Oui, bah, en fait, justement, c'est que moi, je pense pas du tout être romantique. Tu vois. C'est-à-dire que
il aime quand ça claque.
J'aime quand ça.
La rétro, le inversé.
C'est plus possible, tu rajoutes une étape à chaque podcast. C'est insupportable.
L'épisode 1, c'est rétro le. L'épisode 4, c'est rétro le inversé.
Si on atteint les 1000 membres sur notre Patreon, on fait un tuto.
Mais juste nous deux, Théo et Flo, rétro le inversé.
J'ai souvenir qu'il y avait déjà eu un débat comme ça sur un autre épisode. Oui. Mais une rétro le inversé est une le classique.
Non, c'est un missionnaire, on a dit.
Non, la rétro le inversé est une levrette classique. Parce que rétro.
Attends.
Et
c'est comme moins égale plus.
Voilà, tout
okay.
À fait.
Bah ouais.
Je vous expliquerai un jour.
Bah non,
mais écrivez au Patreon.
Non, mais j'aime quand ça claque. Oui, du coup, moi, je pense être moins romantique. Et ça, tu vois, je suis pas dans le truc d'avoir un petit pincement positif plutôt que négatif. Mais c'est plutôt parallèle. Et je suis d'accord avec toi de dire, il faut créer un après. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Mais à la limite, ce soit au pire, c'est un peu ma vision parallèle, c'est que ce soit utile. Tu vois. Et en fait, ce que je retiens de ce coup de poignard un petit peu que je viens de raconter, c'est que ça a en effet mis en avant, de façon assez brutale, mais mis en avant des choses qu'il fallait que je règle et qui étaient utiles pour mes futures relations et ce que je devais faire. Bon là, c'est un peu abstrait ce que je dis, mais ce que je devais faire, tu vois, pour que je me retrouve plus dans cette situation ou bien voilà, que ce soit un peu plus sain à l'avenir. Tu vois ce que je veux dire ?
C'est...
Que ce soit romantique ou utile, en fait.
La résilience affective progressive, quoi.
C'est un podcast conceptuel.
La RAP.
La RAP.
Non, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que ça n'empêche pas. Parce que
oui,
je partage
voilà.
Un peu toute la vie de Florent et de Théo aussi. C'est que voilà, d'avoir quelque chose à en tirer et à apprendre de cette rupture, mais en même temps garder un côté mélancolique et se rappeler des bons moments, enfin, ou que la blessure devienne comment dire, pas plus une blessure quoi, qu'on arrive à passer bon, outre et à se rappeler tout ce qui est tout
c'est
ce
un
qui
peu
était bon.
Ouais, comment le poison permet de créer un sérum quoi.
Waouh,
wow. Ouais, wow.
Le vaccin
et pharmacon voilà, en grec
Covid hein. Pharmacon, exactement.
Pharmacon.
Et juste, je voulais dire,
attends,
la résilience.
L'anecdote.
Hein?
L'anecdote, c'est que pharmacon, en grec, c'est le même mot pour dire poison et remède.
Oui. Wow. Excusez-nous, je pensais que tout le monde maîtrisait le grec et le latin en écoutant Misamal, ça me semble évident.
Misamalus.
Misamalone. Et je voulais dire, résilience affective très progressive.
Oh, RATP,
RATP oh. Envoyez des sous oh.
Les métros des sentiments.
Bienvenue dans la ligne plan A3. Bienvenue dans la ligne plan A3 bis.
Douleur sentimentale. Douleur sentimentale. Oh.
Poterne des peupliers.
Je suis sûr.
Quoi? Poterne des peupliers.
Oui, c'est sur la 3A ou la 3B, c'est dans tramway. C'est pour aller à Tolbiac.
Ah, en tramway, ok.
En tramway.
Putain, je croyais que c'était un tome d'Harry Potter.
Tu m'as de cité ouais. Eu à Tolbiac.
Poterne ah, oui, des oui, peupliers. Oui, non,
Harry Potter. Tu non, es un sorcier, Harry.
Je pense que justement, avec les lignes de métro, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 14, quoi, vous savez.
Mais il y avait un grand Paris, hein, donc
non,
attention.
Non, mais on peut faire des trucs de cul, tu vois, facilement, genre, bah, plan A3. Facile, tu vois.
Ouais.
Mais genre.
Plan A4. Plan A5.
Avec les films, les types de films porno, tu vois, qui sont déroutés, qu'on appelle ça modifié.
Détourné.
Genre, tu peux faire Blanche Fesse et les 7 mains. Vous l'avez déjà entendu,
oui,
celle-là?
Oui.
On l'a même regardé ensemble.
Tu l'as vu?
Non.
On l'a
mais
tourné.
Mais j'en revis maintenant.
Mais je vois pas le rapport avec les métros, du coup.
Oui.
Bah, c'est-à-dire que tu crées Nid avec le 7, tu gardes le 7, mais tu mets une phrase à côté.
Parce que moi, j'étais plus genre Sèvres Babylone, tu dis Sèvres Babylone.
Ah, mais toi, parce que toi, t'es un poète.
Les 8, la ligne 8, salopard, et c'est un gangbang violent. C'est un film de Tarantino.
Oui,
oui,
oui, merci.
Oui, vous aimez pas les gangbangs violents, ok.
C'est ça, c'est plus ça le problème, c'est pas Tarantino.
Oh.
Moi, j'aime pas Tarantino, mais.
Mais. Et alors c'est marrant, dans toutes vos anecdotes, j'ai noté deux choses qui ressortent. Alors pour la conclusion de ma copie que j'ai peur, c'est il y a deux trucs. Il y a toujours une notion un peu de vengeance, dans le sens où j'ai l'impression que vous avez eu l'impression d'avoir, enfin vous êtes rendu compte après d'avoir blessé votre partenaire et que sa manière de vous répondre vous a blessé, mais qu'en gros la blessure a répondu à la blessure. Et le deuxième truc, le plus violent dans ce que vous racontez, c'est l'asymétrie. Vous êtes en face à quelqu'un qui ne renvoie pas ce que vous êtes en train d'offrir. Et moi, ça me rappelle une rupture que j'ai eue où j'ai dit à la meuf, bah en fait, c'est fini parce que j'ai plus de sentiments. Enfin, vraiment, vous pouvez rien y faire, quoi. Et elle m'a dit, je suis pas d'accord.
Non,
c'est non génial.
Merci. Et alors, dit comme ça, c'est rigolo, mais sur le moment, c'était un peu triste parce que déjà, elle était dans une impuissance où j'avais jamais vu aussi
bien
forte.
Sûr.
Théo rigole, vas-y.
Non mais la meuf, j'aimerais la voir en entretien d'embauche, elle est géniale. C'est genre le salaire c'est 30K. Non, c'est 60.
Non.
Tu poses tes ovaires sur la table quoi.
Bah voilà, le nouveau podcast qu'on fait avec Victoire Toyon.
Putain mais c'est
elle
ça.
Elle pose le cœur sur la table mec, t'as vu ça ou pas?
Non.
Bah, si vous voulez nous inviter dans les cœurs sur la table, j'en ai plusieurs. Sur la table, on est d'accord.
Écurie sur la table, c'est en fin de soirée ça.
Écurie
sur
la table. Ah. Sous la table.
Le curé sur la table.
Le curé sous la table.
Ah,
le
bah curé. Ouais. Ou alors avec toi Tom, on fait un podcast de danse, ça s'appellera les chorés sur la table.
Oh.
Les
chorégraphies.
Que des bruitages. T'entends juste la choré.
Voilà. On a eu un problème d'enregistrement. Et du coup, on a perdu une grande blague. Je disais qu'on pouvait inviter Kim Jong-un à faire un podcast, ça s'appellerait La Corée sur la table.
Moi, ça me fait rire toujours. Et j'ai dit, ce serait le podcast qui perd pas le Nord.
Voilà. Ça fait encore rire. Merci, Tom. Je voulais juste continuer sur cette histoire de fille qui m'a dit non au moment où on a rompu. C'est parce que je me suis arrêté de rire. Putain, j'ai vraiment quelque chose à dire. Je me suis rendu compte que... Il y avait ce truc dans la relation où en fait j'avais envie de pouvoir lui dire j'entends ton point de vue, je le respecte, voici le terrain d'entente, mais c'était absolument impossible que je me respecte et que je la respecte dans le même temps, enfin la décision quoi. Je pouvais pas respecter les deux points de vue, il y en avait vraiment un qui gagnait sur l'autre. Il y a un enjeu de domination, il y a une violence symbolique dans la rupture qui est quand même qui est indépassable quoi. Oui.
Non parce que tu dis, elle m'a dit non. Du coup, je l'ai pas respecté. C'est fini en enjeu de domination, genre, c'est les mots.
Madame la juge.
D'habitude, je respecte le nom, mais là, c'est vraiment le seul scénario où tu peux pas dire, ah, d'accord, bah non, alors oui, je suis d'accord.
Je m'excuse, on reprend là, on s'arrête.
Ok, reprenons.
Au début, tu disais, il y avait deux choses, et l'une de ces deux choses, c'était, de constater que dans nos anecdotes à nous,
il y avait un différentiel de affectif, enfin je sais plus, que tu l'as très bien formulé, réécouter le début du podcast. Non mais tu disais qu'il y avait une sorte de différence d'attente et qu'en fait ça créait une sorte de cercle de vengeance, et je trouve ça assez intéressant, cette notion de vengeance affective. Parce que d'un point de vue dans l'organisation en société, c'est un problème, le cercle de la vengeance, qu'on a très vite résolu d'un point de vue du droit. L'existence de la justice et des tribunaux permet de créer en fait un jugement objectif qui met fin au conflit. Je sais pas si vous connaissez l'histoire du bouc émissaire, mais c'est qu'on on filait un bouc en fait pour résoudre des conflits qu'on sacrifiait, quoi. Et ça permettait de mettre fin au cycle de violence avec une tierce personne extérieure au conflit pour éviter la boucle sans fin. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a très bien fait en société, surtout les conflits civils. Mais en fait, d'un point de vue sentimental, on ne sait juste pas le faire. On ne sait pas expier la violence affective et sentimentale autrement qu'en renvoyant la balle à celui qui nous a fait du mal, ou celle.
Enfin, bravo de l'avoir dit en ces mots-là, c'est très clair. Et je pense que c'est aussi pour ça, enfin, sans vouloir extrapoler, mais Florent, t'as dit qu'après ta relation, t'avais fait une pause d'un an où tu voyais pas les meufs, mais un peu pour te remettre, de voir où t'en étais, de guérir les trucs qui devaient être guéris, de savoir là où tu voulais aller, etc. Et on le fait trop peu, mais parce que le célibat est très peu valorisé, parce qu'on a peur de se retrouver avec soi. Enfin, pour plein de raisons, on a du mal à être soi, enfin, tout seul, et de guérir ce qui nous fait peur, et on le reprojette sur la personne qui vient après, et on crée ces boucles-là sans fin, quoi.
Moi, dans ma rupture, j'ai jamais autant mesuré l'importance de mes potes et leurs valeurs que dans ces moments de rupture. Et c'est quelque chose de très positif qui m'a mis du baume au cœur au moment de cette blessure émotionnelle. C'est de voir qu'il y avait des potes qui étaient là pour moi. Je me souviens d'une soirée, je venais de rompre avec mon ex, mais on habitait ensemble. Donc j'avais une pote qui m'avait prêté son appart pour le week-end, et il y a Flo qui était venu. On a fait une soirée juste à deux, et moi j'étais en vrac, mais encore dans cette période où t'as tellement pris un mur dans la gueule que tu réalises pas tout ce qui s'est passé, quoi. Et dans ces moments-là, merci à toi Flo, parce que j'ai complètement, enfin, ça m'a mis du baume au cœur et ça aide à relativiser, et j'ai eu plein d'autres potes, enfin. Et je sais pas si vous, c'est votre cas aussi, parce que, et c'est là où je reboucle avec le reste de l'épisode, pour moi, il y a cette image un peu de la meuf qui se fait larguer, de « oh bah je vais appeler mes copines en pleurant », etc., etc. Peut-être un peu moins dans le cas des mecs, vu que toi, Tom, ça a pas été ton cas. Mais je sais que moi, si j'avais pas eu la béquille de mes potes, et j'en ai vu beaucoup à ces moments, dans ce moment-là, enfin, ça m'a fait beaucoup de bien. Et il y avait ce truc où, sans mes potes, je m'en serais pas sorti. J'avais besoin de pas de pleurer, parce que malheureusement, j'en étais incapable. Écoutez l'épisode sur les larmes pour comprendre pourquoi. Mais il y avait ce côté, bah voilà, moi, maintenant que je suis tout seul, j'ai besoin de mes potes, quoi. Et ça m'a apporté beaucoup de réconfort de me sentir entouré dans ces moments-là. Et je pense que la bromance, c'est cool.
Ouais, non mais... Bah, pareil, je reviens un petit peu sur un truc que j'avais dit. Enfin, moi, c'est pas vraiment mon cas. Peut-être parce que j'ai cette croyance, ou c'est un fait par rapport à mes groupes de potes, que on va plus être justement dans des valeurs de faut pas que tu sois un fragile, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai Flo comme pote, mais avec des personnes avec qui je peux en parler, tu vois, avec des garçons, c'est assez rare, en fait. Tu vois, donc il y a un risque, tu vois, que je passe pour un fragile. Et même si plus je grandis, moins je m'en fiche d'être fragile ou pas fragile. J'avais pas forcément envie d'en parler comme ça, aussi ouvertement, quoi, tu vois. Du risque de parler, justement.
Mais c'est marrant, mais alors, parce que toi, Florent, t'as des cercles de socialisation très distincts, tu vois, entre moi qui suis un second cercle par rapport au premier que t'avais fait, qui était autour du sport, du foot, etc. Ou peut-être, bon, il y a des clichés. Enfin, chaque cercle à son code, mais je trouve que pour moi, hein, un homme qui va oser dire là j'ai mal et en fait il faut que je m'en remette, il faut que je l'assume, il faut que je vois ce qu'il y a en face de moi et que je le dépasse, je trouve ça beaucoup plus fort que quelqu'un qui va dire non, ça existe pas, je vais aller ken la terre entière, c'est un comportement tout à fait sain, et de quand il se retrouve le soir à 2h du matin à pas réussir à dormir, il se rend compte qu'en fait ça va pas, quoi. Mais bon, c'est relatif.
Sauf s'il n'arrive pas à dormir parce qu'il est en train de ken, ce qui est normal.
Non, c'est normal.
Moi, le nouvel an qui a suivi ma rupture, c'était un peu moins de 2 mois après ma grosse rupture, je l'ai passé tout seul, à bouffer de la glace Ben & Jerry's et j'ai un plat surgelé, quoi. Et en matant Friends. Donc c'était un bon moment Bridget Jones, mais c'est aussi que je me suis dit vas-y, je m'en bats les couilles pour une fois, je m'accorde de l'attention en fait, et en tant qu'individualité, parce que je pense que, alors là c'est plus un cas particulier, mais dans ma rupture, moi ce qui m'avait fait beaucoup de mal, c'est que d'un coup, c'était une relation assez fusionnelle, et du coup après 5 ans et demi, d'un coup j'étais tout seul. Et je me suis retrouvé face à moi-même, sauf que le moi-même que j'avais en tête, il avait 5 ans et demi de retard par rapport à moi. Je l'avais abandonné là, je l'avais sacrifié sur l'autel de la relation. Et j'avais pas vraiment progressé avec lui, mais j'avais progressé avec elle, du coup, avec mon ex. Et je me suis retrouvé en décalage entre la personne que j'étais devenue en couple et la personne que j'étais en tant qu'individu qui était en retard. Donc j'avais ce besoin de me retrouver moi-même et de m'accorder, en fait, toute l'attention que j'avais ignorée pendant 5 ans et demi, parce que j'étais vraiment focus sur notre relation, focus sur ma meuf, etc. Et j'ai eu besoin de ce moment Bridget Jones pour m'accorder du temps pour moi et me dire, mais en fait, vas-y, kiffe, fais ce que tu veux, et si c'est ce que tu veux, c'est éviter toutes les soirées du nouvel an et juste bouffer de la glace devant une série, tu peux, t'as le droit. Et ça a été vachement cathartique de se confronter un peu à l'individualité et que j'avais laissé de côté, et réussir surtout à se réconcilier avec, en disant, bah, je suis désolé de t'avoir oublié, parce que c'était vraiment limite un dédoublement de la personnalité. Il y avait le moi en couple qui avait 24 ans, je sais plus quel âge j'avais, et le moi individu qui avait encore 19 ans en fait. Et ça m'a fait du bien de lui tendre la main et lui dire vas-y, c'est bon, je suis à nouveau là et désolé, je vais me rattraper, quoi, pour tout ce que j'ai laissé de côté.
J'ai une anecdote où j'avais rompu avec ma copine avait rompu avec moi, et donc j'avais pas, voilà, changé mes habitudes, c'était une souffrance, c'était un peu dur. Et quelques mois ou quelques semaines après, c'est vraiment ressurgi très très fort, quand j'étais à une soirée dans un bar avec des amis, quand on pouvait encore sortir dans des bars, hashtag Covid. Et c'est vraiment ressurgi à ce moment-là où je me dis, j'arrive plus à écouter la personne en face de moi, j'arrête pas de penser à ça, j'ai besoin de souffrir, ou je sais pas, vraiment de un côté catharsis où j'ai vraiment besoin de penser à cette personne et de me faire souffrir ou quoi. Et du coup, je suis parti de cette soirée sans parler à personne. Vraiment parti comme un voleur. Et je suis rentré chez moi, il pleuvait, je me suis mis à courir sous la pluie parce que j'avais envie de cette souffrance-là, alors même que ça faisait des semaines ou des mois, je sais plus, et que c'est vraiment ressorti à ce moment-là. Voilà, c'est un peu mon seul effet Bridget Jones, mon seul exemple. Et ça m'a un peu étonné parce que je suis pas à avoir un comportement comme ça, mais j'avais vraiment besoin de courir, où je pouvais pas rentrer chez moi et juste aller me coucher, rien faire. J'avais besoin d'exulter ou je sais pas, de me faire percuter par une voiture. J'avais besoin qu'il se passe quelque chose de violent à ce moment-là.
Ça t'a fait du bien?
Oui, je pense.
Mais c'est marrant, c'est comme ce qu'on disait tout à l'heure, je pense qu'il faut oser aller jusqu'au bout de la souffrance sans aller dans des situations morbides ou tragiques, etc. Mais je pense que c'est important de se confronter à vraiment définir le contour du continent qu'est la souffrance, et une fois que t'en as fait le tour, tu dis bon bah voilà, il est devant moi maintenant, il est bon, parce que tant que t'as une forme d'inconnu et que tu le caches et que ça ressurgit et que t'as l'impression que c'est jamais fini, enfin y a une forme d'impuissance face à ça qui peut être vraiment longue à guérir, quoi.
Faut l'embrasser, ouais. Ouais. Et toi du coup, des moments Bridget Jones, Flo, t'en as vécu?
J'ai pas eu de moment Bridget Jones. Si, moi j'ai pleuré après une rupture, le lendemain je suis allé au travail. Et j'ai pleuré à mon bureau, j'étais tout seul, et j'ai pas fait exprès, c'est vraiment, j'étais en train d'écrire un truc, qu'elle n'avait rien à voir, ça m'a même pas fait penser à elle, et je me suis mis à pleurer sans raison, et je me suis dit, bon bah là en fait, il va falloir que, ça, c'est une rupture différente de d'habitude, il va falloir que je l'encaisse, et ça va me prendre quelques mois. Mais moi j'ai ce côté-là de vouloir, j'ai eu ce côté-là en tout cas, de vouloir nier, et de vouloir faire plein de trucs qui me divertissent. C'est un peu comme quand on a peur de dormir, on va regarder un film jusqu'à l'épuisement, ou ce genre de comportement d'évitement. Au final, ça finit toujours par me rattraper. Et donc aujourd'hui, j'essaye juste de me dire, bon bah, qu'est-ce qui m'a fait du mal? Qu'est-ce qui me reste comme résidu de souffrance? En quoi je peux être reconnaissant? Qu'est-ce que je veux pour la suite? Comment je me reconstruis? Enfin, vraiment poser des questions positives. Et pas essayer de chercher de me leurrer moi-même, pour sortir de la situation. Les amis, je vois qu'il est 17h49. Moi, je suis chez moi, donc je suis très bien. Mais vous, il va falloir que vous couriez très vite.
Ah, mais moi, je dors ici.
Je suis en voiture.
Florent, Tom, merci beaucoup de nous avoir rejoints.
Merci à toi aussi, Flo.
Ben, merci à vous.
Je te remercie toujours après, mais évidemment, si tu veux. Ben, voilà, Théo, il me fait une petite crise de jalousie.
Non, mais t'es mon bourreau.
Merci à toi, Théo.
Merci
toujours
à toi,
un bonheur.
Flo.
Et d'ailleurs, juste, si on veut jouer bourreau-victime, c'est toujours moi qui te remercie. Et puis toi, que dalle. Hein.
Mais je me suis fait la réflexion même parce qu'on est trop scripté. Et au début, tu vois, c'est toi qui dis bonjour aux applaudisseurs et moi, je suis un peu frustré.
Ah bah dis-le moi au lieu de le dire à l'antenne. Non, mais on a l'impression qu'on est un dîner entre amis et tu dis et de toute façon il me baise même plus.
Non mais on s'en fout. Mais faut qu'on arrive à changer l'ordre de temps en temps.
Et bah d'accord, moi je pensais que c'était les repères qui faisaient qu'on était bien, mais mélangeons tout. C'est quoi, on va dire
toi.
Salut Théo à la fin.
Merci
salut
à toi Théo. Flo de cette mise à mal.
Bonjour, aujourd'hui je reçois
la boucle sans fin.
Bon bah merci beaucoup. Du coup dans quel sens on le fait maintenant, je sais plus comment dire.
Merci à toi Flo, merci à tous nos invités.
On vous embrasse avec bah je suis perdu. On vous embrasse avec on vous applaudit avec le cœur.
Bah oui.
Et on vous fait des bisous, c'est
et,
ça
et
truc.
Et on vous non et on vous applaudit avec le cœur.
Ah mais donc on supprime des phrases.
Ah j'en sais rien.
Bah tu vois que t'es perdu. Ouais,
mais oui, c'est parce que les gens ont kiffé les rôles.
Eh ben,
oui, bah changez oui. Pas vos rôles. C'était vous étiez très bien.
Bon ouais, salut.
Merci d'avoir écouté cet épisode.
On y était presque. Pour manifester votre soutien, on vous invite à nous suivre sur Instagram, ça compte beaucoup pour nous.
De la même façon, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée, notamment sur Spotify, iTunes et Deezer. Et sur iTunes, vous pouvez nous mettre 5 étoiles, ça nous aide à remonter et c'est vraiment un méga coup de pouce.
Merci beaucoup, à la prochaine.
Bisous.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.